peut y avoir un cycle inflationniste qui s'enclenche avec ce qu'on appelle la spirale 10 coûts salaires. Hein, lorsque les coûts augmentent, le salarié va réclamer auprès de son employeur une hausse de salaire pour faire face à cette hausse de coûts. Suite à cette hausse de salaire, il aura un pouvoir d'achat qui est plus important, qui va entraîner une dépense supplémentaire, qui va augmenter, donc la demande augmentant va augmenter par ce biais-là la hausse des prix, et c'est l'engrenage infernal qui peut être à la cause de beaucoup de maux. Une des conséquences, c'est qu'il faudrait provoquer une forte récession, très très forte, ce qui impliquerait une hausse du taux de chômage pour la casser, ou dans certains cas, comme l'exemple le plus flagrant, c'est le Venezuela, avec de l'inflation à 1000%, où là... c'était terrible. Il y a eu des millions de gens qui ont dû émigrer avec des conséquences.
Parce que l'argent vaut plus rien.
L'argent vaut plus rien. Ils ont, par exemple, rajouté des zéros comme lors de la Deuxième Guerre mondiale sur les Deutschmark. Un billet de 100, imaginez-vous, un billet de 100, une année après, vous rajoutez un zéro, c'est 1000. Votre salaire qui est de 100, une année après, il est de 1000, mais le prix du café est passé de 3,50 francs à 35 francs, voire même plus. Donc c'est des choses qu'on a vraiment de la peine à s'imaginer, hein, cette inflation. Et ce qui est intéressant, c'est que Raiffeisen a établi un sondage pour connaître un peu la perception de la population suisse par rapport à cette inflation. Et il y a des questions qui ont été posées. Comment ressent-elle l'inflation? Que sait-elle de l'inflation? Et c'est intéressant de voir que sur certains points, elle était très très au fait, mais dans d'autres, il y a des notions.
Les gens ne maîtrisent pas nécessairement tous les termes et les techniques.
Où la perception de l'inflation par rapport au poste de dépense, la réponse la plus celle qui est ressortie en première, c'était les primes d'assurance maladie. Même si c'était pas une cause pour eux de l'inflation, parce que on entend tellement parler de hausse de, ça n'arrête pas chaque année, et pendant 10 ans il n'y a pas eu d'inflation, mais on a toujours parlé de hausse des primes d'assurance maladie. Donc ils n'ont pas associé cette hausse des primes d'assurance maladie à l'inflation, mais pour eux bien sûr ça reste une préoccupation qui est majeure. Si on parle de comment la population a pu estimer l'évolution des prix, si je vous pose la question, Cyril, qu'est-ce que vous pensez de l'inflation qu'il y a eu l'année passée, pour citer un chiffre, vous avez une idée?
L'année passée,
oui.
Au niveau suisse?
Oui.
Oui, je ne me souviens plus des chiffres exacts, moi j'avais 1,8, mais...
Pas loin, vous êtes mieux que la population suisse, et c'était 2,1, et la population suisse a estimé à 2,6, donc elle a été beaucoup plus négative par rapport à cette perception de l'inflation. Et puis, une autre question intéressante, si on vous pose la question, par exemple, d'un panier de 100 francs en 1990, quelle valeur aurait ce panier maintenant, selon vous, donc 34 ans après?
Alors, un panier, on imagine qu'un panier était à 100 balles.
Voilà.
Maintenant, la valeur.
Voilà.
Je crois que ça n'a pas triplé, non? Je dis des bêtises, là.
Alors, la population suisse était beaucoup perspicace que vous, parce qu'elle elle a dit 152 francs.
OK.
Donc, 50% de plus, et la réalité, c'était 147. Donc, très proche.
Et puis moi, j'étais loin.
Que, entre guillemets, 50%.
OK.
Et 300, ça veut dire que les prix auraient triplé. Imaginer le prix de l'immobilier alors qu'ils ont bien augmenté s'ils avaient également pris cette proportion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le phénomène inverse, qui est tout aussi négatif que l'inflation, c'est la déflation. Et là, on a vraiment la mémoire courte. Hein. Lorsqu'on a posé la question aux gens, les gens ne se rappellent pas qu'en 2020, par exemple, les prix ont baissé.
OK.
Les prix ont baissé. Il y a eu des périodes... 2012, 2013, 2015, 2016, où les prix ont baissé.
Ce serait très bien qu'on reparte en inflation de 3 ans, là.
Alors, il nous reste 2 minutes, Ivano, par contre.
Oui, alors, pour répondre à cette question, je l'ai dit tout à l'heure, donc le rôle de la BNS est de lutter contre l'inflation, et les taux de l'inflation ayant baissé régulièrement depuis décembre, ils ont passé de 1,7, 1,3, 1,2, 1,1 jusqu'en mars. Et c'est là que la BNS a pris sa décision de baisser le taux de 1,75 à 1,5. C'est la conséquence de cette baisse de l'inflation qui a été observée sur plusieurs mois. Donc il faut savoir aussi que c'est sur le long terme que la BNS lutte contre cette inflation. Il ne suffit pas qu'elle baisse d'un mois en dessous de 2% pour se dire voilà, tout est en ordre, parce qu'elle peut repartir. La preuve, c'est qu'en avril, elle est repartie. On est à 1,7.
Okay.
Donc on s'approche des... Et ce qui n'est pas le cas des autres pays, Banque Centrale Européenne n'a pas bougé ses taux, qui sont toujours très élevés, à 4%. Hein. Nous, on est à 1,5-4%, Banque Centrale Européenne. Les Américains, ils sont à 5, entre 5-5,5. L'économie repart bien aux États-Unis. Par contre, les prix n'ont pas suffisamment baissé. Hein. On est toujours à 3,7 d'inflation, d'après les derniers chiffres. Donc, nettement supérieur.
C'est beaucoup trop.
C'est pour ça qu'en Europe et aux États-Unis, on n'a pas baissé les taux. On n'est pas prêt de le faire ces prochains temps. Contrairement à la Suisse, où on parle... Les marchés ont déjà tenu compte d'une baisse de 0,5 de plus sur... lorsque c'est d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'au niveau des taux long terme, les marchés ont déjà tenu compte de ça. Au niveau des taux hypothécaires, ouais. Au niveau des taux des crédits, il ne faut peut-être pas s'attendre à une baisse de ces taux-là ces prochains temps. Même si la BNS va effectivement baisser de 1,5 à 1,25 ou de 1,25 à 1% ces prochains mois leur taux.
Bon, on pourrait continuer encore longtemps, j'avais encore d'autres questions, mais je suis navré, Ivano. On arrive au bout du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup d'avoir apporté ces quelques précisions. On rappelle qu'on retrouve cet entretien sur radiochablais.ch dès cet après-midi. Merci beaucoup, Ivano.
Je vous en prie.
Guillaume Boisdin, on rappelle qu'il était avec nous en première partie de l'émission pour parler d'un accord historique dans le monde de l'immobilier du côté de Genève. Peut-être un exemple qu'on espère essaimer, qu'on voit essaimer dans d'autres cantons. Merci à vous.
Merci.
Bon appétit.
Merci. Merci.
Bon week-end. Bye bye.
Au revoir, Raymond.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre.
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la Minute Hawaïenne, une spéciale dédicace à tous les Thibauts. Thibaut, 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 Thibaut. C'était une spéciale dédicace à tous les Thibauts, des Thibauts, toi Thibaut Doudou.
La Minute Hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre.
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui.
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Demain, samedi 4 mai, Oniria Festival continue à faire bouger, monter. On en parle avec Gaël Chwendi, l'organisateur de ce festival. Bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va découvrir demain? Ça va de nouveau mettre le feu dans la patinoire.
Exactement, on avait une première soirée la semaine passée qui était vraiment incroyable, on était quasiment sold out avec les années 90-2000. Et cette semaine, on revient avec des sons plutôt actuels, donc il y aura vraiment un petit peu tout, de l'électro, de la pop, du hip-hop, un petit peu tous les styles actuels.
Alors, quelles sont les stars de la soirée, les têtes d'affiche demain?
Alors, on reçoit deux artistes qui sont NASA et Kublak, qui sont des artistes très actuels, ils viennent de sortir d'ailleurs chacun des titres qui sont classés dans le top Spotify. Donc, ouais, ils sont vraiment très, très appréciés en ce moment.
Alors, justement, demain, vous l'avez dit, électro-pop, latino, hip-hop et les deux showcases de NASA et Kublak. Une grande et belle soirée. Le but, c'est de faire la fête, c'est de s'amuser. Oniria, c'est des très, très jolis moments à la patinoire de montée.
Oui, on a installé en plus un écran de 10 mètres de haut. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. On a dû rajouter même de l'électricité. De l'énergie de ma patinoire parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc on a vraiment fait cette année un show qui est vraiment assez dingue.
Alors un show qui s'annonce justement assez dingue. Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Et comment on prend les billets?
Alors les portes ouvrent à 22h. On a l'autorisation spéciale de fermer jusqu'à 4h du matin. Donc arrêt de la musique à 3h30. Donc on a vraiment toute la soirée devant nous. Et puis les billets sont disponibles sur le site du festival. Donc c'est oniriafestival.com ou bien directement sur place.
Alors, oniriafestival.com ou sur place. Gaël Chwendi, est-ce qu'on a tout dit pour l'Oniria? Demain, on rappelle, deuxième étape montézane après samedi passé. Demain, à 22h à la patinoire de Monté. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire?
je crois qu'on a tout dit. On a vraiment passé un super moment, on se réjouit. C'était, on a vraiment fait une super première soirée et puis on va réitérer ça comme il se doit.
Avec grand plaisir. On irait à festival.com. C'est demain dès 22h à la patinoire de Monté. Plein succès. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui ?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais, programme de nuit.
Le mag, c'est le Chablais dans toute sa splendeur. Son actualité du lundi au vendredi après 17h. Et on commence aujourd'hui avec le cycle d'orientation de Trois-Torrents qui fête ses 50 ans. Ouvert en 74, aujourd'hui, le CO de Trois-Torrents, c'est plus de 200 élèves et 25 enseignants. Et bien pour fêter ses 50 ans, l'école vous propose d'aller vous trémousser. La fête débute ce soir 20h avec le bal CO en couleur et se terminera demain samedi avec des ateliers prévus dans les salles du bâtiment scolaire. À l'occasion de ce jubilé, Guillaume Abbey a interviewé le directeur du cycle d'orientation de Trois-Torrents, Franck Berru.
Franck Berru, bonsoir.
Bonsoir.
On fête les 50 ans aujourd'hui de ce cycle d'orientation. Les célébrations vont se dérouler dès aujourd'hui le 3 mai et demain le 4 mai. Juste un petit rappel, peut-être pour les moins jeunes d'entre nous, avant 1974, comment ça se passait ?
Alors avant 1974, ouais, ça ne nous rajeunit pas vraiment. Les cycles d'orientation ont commencé à exister en 1974 dans le canton. Sinon avant, il y avait les écoles ménagères pour les filles. Et puis les classes de promotion pour les garçons, une fois qu'ils terminaient l'école primaire, ils partaient sur ces classes-là. Et dès 1974, les cycles d'orientation se sont progressivement installés dans le canton et à Trois-Torrents en 1974.
Vous-même, vous avez fréquenté ce cycle dans ces premières dizaines d'années. Maintenant, vous en êtes le directeur. Qu'est-ce qui a changé depuis la période où vous l'avez fréquenté, vous, ce cycle ? Comment il a évolué ?
Je dirais peut-être, pour résumer un peu les choses, progressivement, les garçons et les filles ont eu les mêmes programmes. Si on pense aux cours de gym, on pense aux cours d'économie familiale, aux travaux manuels et même à d'autres cours. Ensuite, on a un système qui permet de mieux tenir compte des besoins de chaque élève, de son niveau, avec des cours à niveau maintenant depuis 1987, sauf erreur de ma part. Et puis, je pense que c'est une école maintenant qui tient mieux justement compte des besoins particuliers des élèves que par le passé, où peut-être on avait un enseignant, une classe, et avec moins d'hétérogénéité, de différence.
C'est aussi pour ça qu'on célèbre les 50 ans d'un CO, c'est pour se rappeler d'où on vient.
Oui, ça permet de se dire, voilà le chemin qui a été parcouru, et puis bien sûr le chemin qu'il y a encore à parcourir, parce que finalement, l'école, c'est comme la société, elle évolue vite, très très vite. Je pense que ça s'accélère passablement d'ailleurs. Les défis s'accélèrent, deviennent de plus en plus nombreux.
Vous en êtes le directeur depuis 2013, depuis votre prise de fonction ici à la tête de l'établissement. Quels ont été les plus gros défis que vous avez dû relever, vous, depuis que vous en êtes le directeur ?
Peut-être le plus gros défi, de voir des élèves dont les profils sont de plus en plus hétérogènes. Ça veut dire que, dans son travail, il doit tenir compte de ses différences, respecter les personnalités qu'il a dans sa classe. Et puis, peut-être un autre aussi, qui est un enjeu, surtout à l'adolescence, mais aussi dans les petits degrés, c'est toute la question liée à l'intégration du numérique, la gestion des réseaux par nos jeunes, les écrans et l'implication que ces nouvelles technologies ont sur leur apprentissage.
Pour les prochaines 50 années du CO de Trois-Torrents, quels sont les prochains défis à relever ?
Le premier peut-être, mais là c'est davantage la commune qui pourrait y répondre, c'est de nouvelles infrastructures. Je pense que Trois-Torrents est devant un défi important de pouvoir accueillir ses élèves dans de meilleures conditions. Après, d'un point de vue plus pédagogique, c'est trouver un équilibre entre les besoins particuliers des élèves et le travail que les enseignants doivent faire avec eux. On a élargi le spectre. Est-ce qu'on le gardera toujours aussi ouvert ? Comment est-ce qu'on peut trouver de bonnes solutions pour que le travail de l'enseignant reste possible et efficace avec nos élèves ?
Les 50 ans, c'est aussi l'occasion d'essayer de faire revenir les anciens élèves qui ont fréquenté l'établissement, de faire aussi se côtoyer les différentes générations, celles qui y sont actuellement, celles qui le seront prochainement. Tout d'abord, est-ce qu'on sait le nombre d'élèves qui ont fréquenté ce cycle d'orientation depuis son ouverture en 74 ?
Alors, on le sait parce que y aura un atelier samedi de découverte un peu des différentes listes de classes depuis 1974. Donc, on sait qu'il y a environ 3500 élèves qui ont fréquenté le cycle d'orientation de Trois-Torrents en 50 ans. Samedi, lors de ces portes ouvertes, on risque d'avoir quelques jolies retrouvailles spontanées avec des personnes. Ouais, ça va être sympa.
On sait combien le nombre de profs aussi ont enseigné ici ?
Oui, d'ailleurs, on les a invités, bien sûr. Le doyen, je crois, des enseignants qui ont fréquenté le cycle à l'âge de 3 ans, il est encore en vie. C'est environ 90 personnes, 90 enseignants qui ont fréquenté le cycle.
Merci Franck Berru. Je rappelle que les célébrations des 50 ans du cycle d'orientation de Trois-Torrents démarrent ce soir à 20h avec le bal CO en couleur, avec le petit jeu de mots CO. Elles se poursuivent demain dès 10h avec des ateliers dans le cycle et les salles alentour du cycle d'orientation jusqu'à 17h. Je profite aussi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est aussi vos 50 ans aujourd'hui. Merci à vous pour cette interview et puis belle fête au pluriel du coup.
Merci beaucoup Radio Chablais, merci.
Eh bien, très belle fête, bon anniversaire à Franck Berru.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Des rires, de la laine, du tricot et du thé. Voilà ce que propose chaque mercredi la bibliothèque de Port-Valais. Une animation gratuite, intergénérationnelle. C'est un long mot ça, hein. 20 lettres, j'ai compté. Ils accueillent tout le monde afin de passer un bon moment, Léa Journeau, et aller faire un petit tour.
Nous sommes à la bibliothèque de Port-Valais où se déroulent des ateliers un peu particuliers presque tous les mercredis. Mais on va laisser Muriel Gray, bibliothécaire, nous expliquer le concept.
En fait, c'est pas un atelier, c'est une rencontre intergénérationnelle pour faire du tricot, du crochet. Qu'on sache tricoter ou qu'on ne sache pas crocheter ou tricoter, ça permet d'une rencontre et d'apprendre, ou simplement de le faire en bonne compagnie.
Ici se côtoient de nombreuses femmes, elles étaient 15, cette fois-ci jeunes et moins jeunes, sachant tricoter ou non, parce que le but n'est pas forcément de savoir, mais plutôt d'apprendre et partager, comme l'explique Farida, l'une des participantes.
C'est vrai qu'une dame elle va échanger des histoires, bon là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est particulier, parce qu'il y a énormément de monde, mais les premières fois on était tout autour de la table, et puis une elle dit quelque chose, elle rigole, et puis on se soutient entre nous, on se félicite. Non, franchement, c'est très très sympa.
Parce qu'ici, on est encore au niveau débutant. Là-bas, oui. Là, elles peuvent même regarder la télé. Là.
Parmi toutes ces femmes, Solène, 13 ans, est venue avec sa sœur et sa maman avec un objectif bien précis.
Je viens apprendre le crochet pour faire un sac au final.
Jusque-là, comment tu trouves ?
C'est un peu compliqué, mais c'est sympa.
Pourquoi c'est compliqué ?
Parce que je compte pas tout le temps les mailles.
Mais comment est né ce projet où toutes les générations se mêlent autour de laine et d'aiguilles à tricoter que la bibliothèque met à disposition ? Écoutez la réponse de Muriel Gray.
Au départ, c'est une adolescente. Comme maintenant à l'école, on n'apprend plus à tricoter ou à crocheter. Elle voulait un livre pour apprendre. J'ai cherché dans la bibliothèque, je trouvais qu'on avait quand même des livres qui étaient un peu vieux. Donc on en a acheté des plus actuels. Et puis après, avant de lui donner les livres, je trouvais que c'était un peu dommage qu'elle l'apprenne toute seule à la maison. Donc on a commencé à collecter des pelotes de laine. On m'a demandé à ceux qui venaient s'ils avaient des restes de laine ou des pelotes qu'ils n'employaient plus, des aiguilles, des crochets. On a petit à petit monté toute une lainothèque, c'est-à-dire une bibliothèque de laine. Et puis après, on cherchait quelques lectrices qui savaient tricoter, on a proposé cette animation qui a plein succès, je trouve.
Et Muriel Gray a une idée en tête pour la fin de l'année, avec comme objectif de montrer à la population le fruit de ses ateliers.
Alors le but, c'est de faire un urban tricot tous ensemble, c'est-à-dire un projet qu'on puisse montrer dans le village, quelque chose qui a été créé.
Ta laine à toi, elle est très fine.
Et ce que cet atelier de crochet et de tricot amène aux participantes, eh bien finalement, c'est tout simple.
Une rencontre. Simplement de faire la connaissance avec des jeunes ou des moins jeunes, de se connaître, de passer un beau moment. Nous, la bibliothèque, on a mis en place ça. Mais à l'heure actuelle, on n'offre que le lieu et la tasse de thé. C'est tout. Après, elles se débrouillent, elles font comme elles souhaitent.
Celle-là, c'est plus ou moins la même chose.
J'en ai une, mais c'est un bout comme ça.
À noter que toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la bibliothèque de Port-Valais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Avenir, Pentecôte, joie. Seria, Salma, Joseph, Mohamed, Amadou, Aïcha, Sublime. Voilà des prénoms des enfants qui arrivent et qui repartent de la maison de Terre des Hommes en Valais à Massonger. Des enfants qui séjournent en moyenne 2 mois, mais pour certains, 2 ans. Ils sont soignés aux hôpitaux universitaires de Genève ou au centre hospitalier universitaire vaudois avant de repartir au Niger, au Tchad, au Gabon, au Congo. Et la liste peut continuer longtemps puisqu'en 2023, la maison a accueilli 166 enfants de 23 pays. Valérie Favre a suivi une journée de vie dans cet endroit si particulier, mais vital.
D'abord, on lave les enfants, on les prépare, on les habille, et puis on les place à table à 8h du matin. Alors, je m'appelle Vania, je suis éducatrice ici au sein de la maison Terre des Hommes Valais, et ça fait maintenant 5 ans que j'exerce ici en tant qu'éducatrice. Bah, les grands vont préparer les tartines pour les petits. Ils vont attendre le départ du petit déjeuner, c'est-à-dire le feu vert de l'éducateur qui va dire bon appétit. De là, ils vont pouvoir commencer à manger tous ensemble. C'est un peu comme ça que ça se passe le matin chez nous.
Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous.
Voilà, c'est une donc ici, on a l'infirmerie.
Voilà, c'est un peu le lieu.
Je suis Émilie, désolée, c'était la pluie ce matin, on n'a pas eu le temps.
Émilie, infirmière, enchantée.
Émilie. Et puis, donc on a un horaire. Donc aujourd'hui, c'est Maxime. C'est un étudiant stagiaire qui est dépêché pour venir m'aider à l'infirmerie.
Okay.
Ça veut dire qu'il va venir pour m'accompagner, pour tenir la main des enfants quand il y a besoin de réconfort. Donc là, on va s'occuper de Alex, qui a une petite plaie au niveau du bras. Tu peux venir là. Là, viens t'asseoir.
Quotidiennement, déjà, on fait une observation de chaque enfant, voir son état clinique, voir s'il participe bien aux activités de la maison. On a de la chance d'avoir une super équipe éducative qui vient, dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez un enfant, qui vient nous le signaler. Donc, ces enfants-là en particulier, on va aller voir à l'infirmerie, voir s'ils ont des douleurs, pourquoi ils ont par exemple des difficultés à respirer, pourquoi ils sont plus fatigués que d'habitude. Donc, la surveillance, elle fait déjà partie intégrante de notre activité quotidienne.
Somdouda, toi, tu peux t'asseoir aussi.
C'est bon.
Et quand on y réfléchit de plus près, on pense que chaque semaine, on peut avoir 3, 4, 5 opérations du cœur. Et ça, ça donne un petit peu le tourniquet, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer que tous ces petits ou plus grands qu'on croise ici, il y en a 3, 4 ou 5 qui vont se faire ouvrir le thorax pour se faire opérer du cœur.
Philippe Jex, directeur de la maison Terre des Hommes Valais.
Ça fait partie de ces journées types, mais qui en fait ne sont pas si types que ça. C'est quand même assez particulier, je dirais.
Ouh.
T'entends la voix ?
Ah ouais.
T'entends la voix de Pentecôte ? Puis tu veux parler toi ?
Oui.
Tu veux raconter d'où tu viens ?
Oui.
Tu viens d'où ?
Niger.
Et puis comment ça s'est passé? Ça fait longtemps que tu es venu ici?
Oui.
Avenir, tu veux répondre à une question, hein?
Oui.
Au micro?
Oui.
Tu es d'accord?
Oui.
Tu es prêt?
Oui.
Raconte-moi comment tu t'appelles.
Charlie.
Oui. Et ton prénom?
Je m'appelle Avenir. Oui.
Aujourd'hui, enfin le lundi, il y a les contrôles à l'hôpital. Ça se fait principalement au HUG.
Alors, on a plus d'enfants qui sont traités au HUG qui sont traités au CHUV à Lausanne. Donc, il y a ce rythme du lundi qui est relativement ancré dans le. Enfin, moi, j'ai toujours connu ça. Le lundi, consultation globale. Et le lundi, on a également passablement de soins dentaires au HUG, parce que soins dentaires dans le cadre de cardiopathie, c'est hyper important vu que c'est quand même. La bouche, quand même la porte d'entrée d'un système respiratoire relié au poumon, au cœur.
Attention, les mains. Enlevez la ceinture.
On s'attache comme il faut. Je vais venir contrôler les ceintures.
Juste, allez, tu me prendrais d'aller en chercher.
Merci, Maïlia.
C'était deux à conduire.
Ouais, alors moi, je conduis. Et puis, Maïlia, elle m'accompagne. Bah, s'il y a un souci, elle s'occupe avec les enfants. Enfin, okay. Gérer. S'il y a un enfant qui pleure ou... Tu veux dire, elle veille à ce que les... à ce que ça se passe bien derrière, quoi.
Ah, parce qu'ils sont...
Là, ils sont 6. Et puis 5. Et puis en fait, au retour, j'en aurai 6.
Toi, c'est bon.
Ça joue, les loulous.
C'est bon, vous êtes tous attachés.
Et là, ouais, c'est là, parfait. On est bien. Toi, c'est bon. Ok, tout est parfait. Ça va, les loulous? Vous êtes prêts? On va mettre la musique.
On a tout.
On a tout. Parfait. Ok, super.
Voilà.
Ça vous fait rire, hein?
Salut les filles, amusez-vous bien. Bonne route.
Donc il y a l'histoire.
Ah pardon, récupérer.
C'est parti.
Allez, ciao, bonne journée.
Bonne journée.
Ciao, ciao. Toutou.
Ils sont toujours à deux.
Mais généralement, oui, ils sont toujours à deux. Il y a un éducateur et un stagiaire éducateur. C'est vraiment super bien organisé. Et en fait, on profite à chaque fois de ce passage à Genève pour aller voir les enfants qui sont déjà hospitalisés, qui sont sur place, okay. Pour aller leur faire coucou. Et puis c'est bien pour eux parce que ben ils sentent qu'on les oublie pas. On va leur faire un coucou quand ils sont hospitalisés, puis ça leur fait un bien fou, quoi. Mm. Puis même les enfants, ils peuvent aller les voir, leur faire un coucou.
Ils mangent
là-bas.
Ouais. Ouais.
Puis on met à l'honneur aussi tous les bénévoles qui tournent autour et qui gravitent autour de la maison, que ce soit les convoyeurs. Quelquefois, on a des enfants qui partent pour l'aéroport de Genève à 4h30 du matin. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris ici, c'est la bonté, la générosité des gens qui viennent juste pour nous aider et juste pour aider ces enfants qui sont là. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, ça a souligné vraiment. Comment ça se passe les journées? C'est quoi le moment que tu préfères dans la journée?
Rien.
Rien? Ou c'est le moment où vous... du 4h, ou c'est le moment de détente où vous dansez?
De danser.
Danser, c'est bien?
Oui.
Puis vous allez encore danser avant le souper?
Oui.
Vous te réjouis alors?
Oui. Un reportage de Valérie Favre que vous pouvez découvrir en vidéo sur radiochablais.ch. À savoir encore, si vous souhaitez aller danser avec eux pour les intéresser, la Maison Terre des Hommes Valais cherche des stagiaires dans le domaine éducatif.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Toutes. Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Attends, je t'explique, c'est la chronique qui vous apprend des trucs qui font peur. L'aviophobie, c'est quoi? Je suis en compagnie de Marc Jaramillo. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es coach chez Voler sans peur. Et puis du coup, alors la grande question, c'est l'aviophobie, c'est quoi?
Vaste sujet, Bastien. L'aviophobie, disons que c'est une peur irrationnelle de prendre l'avion, voyager en avion. Mais dans cette peur-là, il y a différents degrés. On va dire modéré, panique et panique totale, voire l'évitement carrément, quoi.
Donc il y a des gens, ils prennent pas du tout l'avion parce qu'ils sont en flip complet.
Tout à fait. Ils sont prêts à faire des voyages en voiture interminables afin d'éviter carrément l'avion, quoi.
Mais les gens en soi, ils ont peur de quoi?
Alors, on retrouve souvent des profils types, du style claustrophobie.
Ok, ouais.
Voilà, on pourrait dire des gens qui perdent le contrôle, qui aiment bien avoir le contrôle sur tout. Et aussi, on a des gens, c'est par rapport à une méconnaissance du milieu de l'aviation en général.
Voilà, de pas trop savoir comment vole un avion, de pas trop savoir un peu tous ces bruits qu'il y a dans un avion.
Tout à fait.
D'ailleurs, ces bruits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruits.
Ouais.
Moi, j'en ai un en tête, typiquement. Je pense que tu pourras m'aiguiller sur ce que c'est.
Ouais.
Ça fait un bruit un peu de fraiseuse. Sous l'avion, on entend vous, vous, vous.
Dans notre jargon, on appelle ça un peu le bruit du chien. Bah, au fait, c'est tout simple. C'est les pompes hydrauliques qui servent pour les volets de l'avion au moment du décollage et puis au niveau de l'atterrissage. C'est simplement la pompe qui se recharge en pression. et hydraulique. Il y a aussi beaucoup de bruit au sol, c'est par rapport, on n'y fait même pas attention, mais c'est les portes des soutes ou le chargement des valises qui font beaucoup de bruit. Et les, et les gens, ils sont assez flippés parce que ça fait boum, boum, et puis c'est quoi. Mais on est là, on explique, quoi.
Sinon, un autre truc qui fait beaucoup, enfin, qui surprend surtout quand on est en vol, c'est les turbulences.
Ouais.
Ça, c'est dû à quoi en soi?
Disons, c'est une différence de masse d'air, on va dire, entre du chaud et du froid. C'est un peu comme sur une route, hein. C'est pas tout beau, c'est pas tout plat. Et puis, ben, y a des petits sursauts. C'est toujours impressionnant quand on est dans un avion, mais si vous parlez avec un pilote, il vous dira tout au grand maximum, l'avion, il bouge de 30 cm sur le haut ou sur le bas.
Ah ouais, parce que c'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'on fait des vols planés, non, mais des... Je fais un signe que personne ne voit à part toi, mais vraiment qu'on tombe, en fait.
Voilà,
en fait,
non, mais c'est justement, c'est une légende, ça bouge pas plus de 30 cm. Et justement, si vous êtes en vol, vous pouvez faire le test avec une bouteille d'eau.
Dès que vous sentez. Plus.
Voilà, dès que vous mettez une bouteille d'eau sur votre tablette, un exemple, et il y a des turbulences, vous verrez que le contenu de votre bouteille ne bouge pas beaucoup.
Ok. Bon, l'aviophobie, c'est quand même quelque chose qui touche une bonne partie de la population. Au niveau des chiffres, ça représente quoi?
Alors, au niveau, on va dire, global, ça toucherait 30% de la population.
Ah, quand même.
Ce qui n'est pas rien.
Presque autant que les araignées.
Donc, je fais partie. Et puis, dans ces 30%, on va dire, entre 4 et 5% qui ne le prennent pas du tout.
Ah. Et donc, toi, coach chez Voler sans peur, le but, c'est donc c'est un peu ces personnes-là, j'imagine, qui viennent vous voir.
Oui.
Ok. Et donc, au final, ils prennent l'avion.
Alors, on a un taux de réussite de 98%.
Ah, quand même.
Voilà. Et puis, oui, généralement, comme ils nous disent à la fin, on change leur vie.
Eh ben, dis donc. Marc Jaramillo, je rappelle, tu es coach chez Voler sans peur. On va faire une petite pause musicale et puis dans la deuxième partie, on va essayer de parler un petit peu plus justement de ça, Voler sans peur. Peut-être que ça va donner l'opportunité à certains de voyager. À tout de suite.
Radio Chablais, programme de nuit.
Va des rétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
L'aviophobie, c'est la peur irrationnelle de l'avion. Il existe plusieurs degrés de peur avec la claustrophobie, la perte de contrôle et la méconnaissance de l'aviation. Ça touche 30% de la population mondiale, c'est énorme. Mais bon, après cette émission aux côtés de Marc Jaramillo, tout le monde va oser partir voyager. Marc, pour ceux qui osent quand même prendre l'avion, mais qui sont pas très à l'aise, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner à ces gens?
Ouais, je peux vous donner 2-3 trucs de base. C'est déjà pas venir à la dernière minute, afin d'être stressé déjà avec votre enregistrement ou la douane, etc. Surtout éviter le café.
Ah ouais?
Ouais, tout ce qui est boisson, on va dire énergisante, voilà, excusez. Et surtout l'alcool.
C'est vrai cette légende que l'alcool il est décuplé en l'air.
Tout à fait. Et aussi pareil pour les médicaments.
Ah voilà.
À éviter absolument. Même que on peut se dire ça pourrait me faire un peu de bien, mais au fait c'est.
Ouais, ouais, il y en a, ils disent je prends un Xanax avant de monter. Alors ça sera évité.
À éviter.
Parce que là aussi ça se décuple.
Exactement.
Et puis donc s'il y a des turbulences par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bah déjà se dire que c'est normal. L'avion est fait pour, il va rien vous arriver. Et puis donner quelques petits trucs comme bouger sur son siège, se détendre, pas trop crisper et attendre que ça passe. Mais c'est un phénomène plus que normal.
Un espèce de cercle sur son siège.
Voilà, nous on appelle ça un peu la danse du serpent. C'est bouger sur soi-même, sur son siège, afin qu'au bout d'un moment, le cerveau ne sait plus faire la différence entre si c'est vous qui bougez ou c'est l'avion qui bouge.
Moi j'avais entendu, tu me diras si c'est un bon truc ou pas, mais qu'il fallait fermer les yeux et s'imaginer d'être dans un bus en train de rouler sur des cailloux.
Aussi.
Mais bon, au final...
Ça peut j'ai un peu de peine ce soir.
Pas de soucis.
Ça peut un peu couper le cerveau dans ses mauvaises pensées.
Ok. J'ai oublié le nom de la Voler sans peur. Voilà.
Voilà.
Donc toi, tu es chez Voler sans peur. Tu
oui.
me disais hors antenne. Enfin, non, on va poser la question autrement. Comment t'as fini chez Voler sans peur?
Ben notre association à Genève fonctionne sous le principe, c'est des anciens, donc j'étais phobique, qui aident les nouveaux. c'est un peu le principe des alcooliques anonymes, quoi.
Donc, toi, un jour, tu t'es dit... Enfin, tu prenais pas l'avion.
Voilà.
Mais toi, t'as été te faire aider, justement, chez eux ?
Ben, un jour, j'ai pas pu monter à bord d'un avion. Justement, j'ai dû annuler mon voyage. Et j'ai fait des 2-3 recherches sur Internet. Et puis, je suis tombé sur l'association. Je me suis inscrit, donc, c'est un stage qui dure 3 jours à Genève Aéroport, avec la collaboration de la compagnie suisse. Et puis, oui, voilà, ça m'a sorti de ça. Et ensuite, ça m'a tellement plu, le concept. Et puis, j'ai senti que j'avais peut-être quelque chose à faire dans ce milieu. Et depuis bientôt 3 ans, je suis moi-même coach maintenant.
Ah, voilà. Trouver la vocation après avoir été phobique, c'est quand même fou. Le stage, 3 jours, on fait quoi pendant 3 jours ?
Alors, c'est coupé en 3 jours. Le premier jour, on va dire, ben, c'est comme on en parlait avant, la méconnaissance du monde de l'aviation. Avec la visite d'un avion, et puis vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à un commandant de bord de Suisse. Mmh. Ou visiter un avion réel. Et après, on va dire, il y a toute une partie psychologique, et on appelle ça, nous, la boîte à outils. C'est des petits trucs afin de se préparer à certaines situations. Et on finit le stage sur un aller-retour en avion réel, sur un vol Genève-Zurich ou Genève-Nice.
Il y a des gens qui désertent à ce moment-là ?
Ça arrive.
Et là, vous faites quoi ?
Rien. On doit les laisser partir.
Ok.
Parce qu'autrement, ça pourrait être pire. Disons.
Ouais, alors c'est sûr qu'on va pas les forcer.
Voilà. Puis après, ça peut être encore un traumatisme supplémentaire. Mais après, disons, on les accompagne, on les fait revenir, et généralement, ils reviennent et ça marche.
Moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé, justement. Je pense, genre, moi, le premier jour de stage, je viendrais le faire juste parce que j'ai plein de questions un peu bêtes. Mais par exemple, on est assis dans l'avion, puis avant le décollage, on entend tout, puis on entend juste. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est qui parle ? Puis il parle à qui ?
Ouais, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux qui tournent avec ça. C'est plus, on va dire, l'équipage qui communique entre eux.
Ah, voilà.
Voilà.
Parce que quand on entend ce son, on se dit, ah, on va nous dire un truc, puis en fait, on
entend... Non, pas forcément, pas forcément.
Les pilotes, on dirait qu'ils ont le micro dans la bouche, des fois, quand ils parlent.
Oui. S'ils parlent.
En tout cas, pour les personnes qui sont phobiques, donc je pense que vous avez un site internet.
Alors oui, volersanspeur.info.
Bah voilà, très bien. S'il y a des personnes qui souhaitent aller suivre ce stage aux côtés de Marc, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être.
Non, merci de l'invitation. Puis je salue toute la team de Voler sans peur à Genève.
Eh bien, on salue toute la team de Voler sans peur à Genève. Merci beaucoup, Marc Jaramillo, coach chez Voler sans peur, d'avoir été avec nous. Une excellente soirée.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, c'est chaud.
Sur le grill.
Oh,
l'espace Graffenried à Aigle propose 2 expositions. Lovely Chablais, l'émergence du tourisme à travers l'art, c'est jusqu'en septembre. Et When the Flowers Bloom de Tracy Lim, ça c'est jusqu'au 9 juin prochain. Il faut se dépêcher d'aller en profiter. Tracy Lim, bonjour.
Bonjour.
D'où est-ce que vous venez ?
Je viens des États-Unis, mais origine c'est Corée du Sud.
Tracy Lim, il fit parler des matériaux, des matières qui ont été utilisées. Il y a du papier spécial, expliquez-nous.
C'est un peu spécial papier à Corée du Sud. Il s'appelle Hanji. Et c'est un spécial matériel qui vient en Corée.
Qui est fait à base de quoi ?
C'est à base de l'arbre.
Chloé Cordonnier, responsable ici de l'espace Graffenried, bonjour.
Bonjour Cyril.
Juste pour compléter, donc justement les matières utilisées sont très importantes aussi dans la démarche artistique de Tracy Lim.
Oui, tout à fait. Il s'agit de feuilles de riz en fait, pour résumer. Donc le papier de riz qu'elle appelle Hanji. En fait c'est la feuille de riz qui vient de Corée du Sud et qui est appliquée directement sur la toile avec un processus de séchage à l'air spécial qui prend plusieurs jours. Donc c'est vraiment un travail qui prend du temps, qui demande de la patience, de la contemplation aussi. Et ensuite, Tracy vient appliquer ses couleurs, ses pigments naturels, donc ses fleurs en fait, sur la toile qui a séché. Et au préalable, elle dessine les contours des fleurs à l'encre de Chine.
C'est très important, Tracy Lim, parce que justement, il y a toute une démarche artistique pour prendre le temps. Et on prend le temps, ça nous rappelle peut-être, nous, petits Européens qui ne connaissons peut-être pas assez bien l'Asie, mais certaines cérémonies, certaines certains processus où justement il faut prendre le temps et la contemplation est importante.
C'est tous les deux. C'est comme en méditation avec le temps. On attend et pense dans la tête. Et après, on fait la procédure avec la nature, avec le vent et aussi pour sécher le papier et tout ça.
Toute une procédure artistique qui permet justement de prendre le temps de réfléchir. Donc quand on vient admirer votre art, on peut méditer devant vos fleurs et c'est le but, c'est de pousser à une certaine réflexion, à une certaine méditation.
Oui, c'est comme en méditation, ça dépend des personnes, mais je crois que c'est possible de réfléchir quand vous voyez les peintures. Et peut-être c'est possible de reposer pour voir mon peinture et faire la méditation.
Merci Tracy Lim. Chloé Cordonnier, justement, encore un petit mot là-dessus. Vous, quel effet ça vous fait quand vous vous retrouvez devant les œuvres de Tracy Lim?
Ah, c'est une bonne question ça. Mais je trouve que cette exposition est parfaite pour le printemps, justement, parce qu'on a ces couleurs très fraîches, très vives et douces à la fois. Donc de prime abord, on entre dans la salle et on est envahi par toutes ces couleurs qui sont réconfortantes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine nostalgie. Bon, peut-être que je suis biaisée parce que je connais un peu la démarche et les propos de l'artiste, mais elle parle d'une certaine nostalgie pour son pays d'origine qu'on retrouve dans ses tableaux, notamment parce qu'elle représente la fleur cosmos qu'on trouve notamment en Corée du Sud. Donc un mélange de sentiments, de sensations, mais beaucoup de douceur. Et c'est vrai qu'on a envie de prendre le temps d'observer chacune de ces couleurs et d'observer aussi la nature quand on sort de l'espace Graffenried et ce beau printemps qui nous attend.
Donc ça pousse à la contemplation dans l'exposition et à l'extérieur de l'exposition.
Oui, je crois qu'on peut dire ça.
Merci beaucoup. Merci Tracy Lim.
Merci.
When the Flowers Bloom, l'exposition de Tracy Lim, c'est à l'espace Graffenried à Aigle jusqu'au 8 juin prochain.
C'est chaud. Sur le grill. Oh,
bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
On refait un tour dans le monde de Tracy Lim, l'artiste coréenne, et surtout dans le monde de l'espace Graffenried et tout ce que ça propose. Chloé Cordonnier rappelait aussi qu'il y a un atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans, samedi 1er juin à 14h. C'est gratuit, mais sur inscription. À la découverte de l'art coréen en présence de l'artiste, ça, c'est un moment d'exception.
Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de spécial. On n'a pas fait ça jusqu'à maintenant. Donc là, on a la chance d'avoir Tracy Lim qui sera présente samedi 1er juin à 14h pour apprendre un peu aux enfants chablaisiens et chablaisiennes, parce que là, c'est hors classe. Donc, c'est un samedi. De leur apprendre l'art coréen, mais une technique bien particulière, celle de la feuille de riz hanji. Et puis, on a la chance aussi, Tracy Lim est sponsorisée en partie par un monsieur qui s'appelle Monsieur Choi, qui habite dans la région de Jeolla, en Corée du Sud, et qui a justement une entreprise, un atelier de feuilles de riz hanji. Il est considéré lui-même comme faisant partie du patrimoine immatériel de Corée du Sud. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant et on est très 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 heureux de pouvoir proposer ce papier qui vient directement de Corée du Sud aux enfants pour l'atelier et d'avoir toute l'expertise et la bienveillance de l'artiste aussi pour ces 2 heures d'atelier samedi 1er juin. Sur inscription, les places sont limitées, ça se remplit déjà très vite, on n'aura pas plus que 15 places, donc on vous conseille de vous inscrire par email très rapidement, c'est gratuit.
Tracy Lim, vous voulez juste remercier aussi une fondation très importante pour vous. Quelle fondation?
C'est la Fondation Omer.
Alors la Fondation Omer, il y a un lien très important aussi avec le cordonnier, parce que Tracy Lim va quand même grimper en prestige cette année grâce à Christie's.
Oui, c'est vrai que cet été, Tracy Lim participe à une vente aux enchères à Londres avec Christie's. Donc elle aura l'occasion de vendre les œuvres qui sont dans l'exposition When the Flowers Bloom à l'espace Graffenried cet été avec Christie's. Et la Fondation Omer, qui est une fondation humanitaire pour la recherche dans le domaine de la santé, la sponsorise dans ce cadre.
Moment d'anthologie prévu par l'espace Graffenried, cet atelier créatif pour les enfants, la découverte de l'art coréen en présence de Tracy Lim, l'artiste, samedi 1er juin. Et l'exposition de Tracy Lim, c'est jusqu'au 8 juin, on vous le rappelle, dépêchez-vous d'aller regarder ça.
C'est chaud. Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. On se trouve devant la salle polyvalente de Dorena. Dorena.
pour les intimes. À l'intérieur, il y a des enfants qui font leur cours de gym, qui ont l'air de s'éclater. Tant mieux pour eux. Ma très chère guide Yasmine, il est venu l'heure de nous quitter, mais avant quand même, je voulais savoir, dans ton petit cœur à toi, qu'est-ce que ça te fait ? Pourquoi Doren, c'est effectivement l'ombril du monde ?
Alors déjà, pour une petite astuce culinaire, pour la tarte au pruneau.
Arrête.
Ouais. Si on regarde les photos des années 60, il y avait plein de pruniers partout qui ont un petit peu disparu, mais mes grands-parents avaient des pruniers. Et vraiment, il y a des endroits, des villages, on les connaît pour les poireaux et d'autres. Et nous, c'est la tarte au pruneau qui était un peu l'emblème culinaire de Doréna. Et là, peut-être, je lance un petit appel, un petit défi, que ce soit la commission Aînés Jeunesse et Culture ou la Société de Développement. Peut-être une fois, on préfère la fête du pruneau ou un concours de la meilleure tarte au pruneau, ça pourrait être pas mal.
Je suis 100% d'accord avec toi. Le message est lancé.
Voilà, et puis sinon, Doréna, mon coup de cœur, j'ai grandi ici. J'ai vu le village doubler d'habitants. Et puis, moi, je suis impressionnée quand je regarde, c'est la quantité de sociétés locales qu'on a. On parle toujours de manger local, voilà. Et moi, je dis, il faut vivre local parce que il y a tellement de choses à faire à Doréna. On a, comme beaucoup de villages, une société de chant, une société de fanfare. Mais à part ça, si on est sportif, on peut faire de l'aïkido, du tennis de table, le street hockey qui est bien connu ici, la gym. On a une cabane au sommet de la montagne. On peut faire du ski, du tir au pigeon. On a les chasseurs qui se regroupent, les aînés qui ont leur propre club, la jeunesse maintenant de Doréna, les ados qui se mettent ensemble, je trouve ça super chouette. Les modélistes aussi qui font voler une fois par semaine leur machine, c'est assez beau à voir aussi. Les tracteurs tondeuses, comme on discutait tout à l'heure.
Oui, on est dans la capsule précédente, le championnat des tracteurs tondeuses.
Voilà, on a des ateliers créatifs, la maison des contes et légendes. Donc il y a plein de choses, je pense que c'est... on doit trouver son bonheur à Doréna parmi toute cette foule d'activités. Et puis j'espère que les gens ils vont trouver leur bonheur et puis qu'on va rester un village où il fait bon vivre, même s'il y a un tout petit peu de vent ce matin.
Moi j'adore aussi la tarte au pruneau, mais attention, notre poisson faux, si vous savez pourquoi.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Radio Chablais, programme de nuit.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Alors comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, aujourd'hui on s'attaque à la question existentielle qui mérite réponse. Pourquoi fait-on des cauchemars? Je suis sûre que comme moi, les cauchemars ont traumatisé votre enfance et si vous auriez pu faire ça sans, ça aurait changé vos nuits pour le meilleur. Alors pourquoi on n'a toujours pas trouvé le moyen de les éradiquer? J'ai creusé le sujet et il s'avère que c'est complètement normal et apparemment même healthy d'avoir des cauchemars, enfin de faire des cauchemars au moins une fois par mois. Bon, sur ça, j'ai des doutes, mais ma foi, c'est ce qui est écrit sur Internet, donc ça doit être vrai. En fait, quand on dort, les rêves permettent de réguler les émotions et les événements de la journée, ce qu'on a ressenti, la joie, la peur, le stress, etc. Et les cauchemars, eux, ce sont des échecs du processus de régulation des émotions pendant le sommeil. Alors, en gros, ça veut dire que le cerveau déconne, et c'est un bug dans le système. Alors, même si les cauchemars arrivent en fin de cycle du sommeil, dans la phase de ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, ça peut nous prendre une demi-heure, voire beaucoup plus, pour nous rendormir parce que notre cœur bat super vite et notre cerveau est lancé à pleine vitesse. Alors, le mieux dans ce cas, pour l'avoir vécu beaucoup de fois, c'est d'allumer la lumière, histoire de se reconnecter avec la réalité, de sortir de son mauvais rêve. Et puis, ma foi, si vous dormez à côté de quelqu'un, on dit bien que la misère, ça se partage. Et pour aider votre cœur à retrouver un rythme cardiaque plus doux, les exercices de coordination respiratoire sont juste fabuleux. Je vous les recommande. Il y a un autre truc aussi complètement effrayant dans le monde des cauchemars, ce sont les paralysies du sommeil. Alors pour ceux et celles qui sont assez chanceux de pas savoir ce que c'est en fait une sensation désagréable où on a l'impression d'être réveillé et qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans notre chambre qui nous veut du mal. On peut pas bouger, on peut pas crier ou appeler à l'aide, on n'est plus maître de notre corps. Bref, alors non, c'est pas un scénario de film d'horreur. quoique. En fait, c'est juste notre cerveau qui tourne à plein régime alors que notre corps, lui, il est complètement endormi. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut plus bouger et puis qu'on peut pas, on peut pas crier. En fait, on est pile poil entre le mauvais rêve et la réalité. Et j'ai découvert à travers ma petite expérience personnelle dans le domaine que les cauchemars arrivaient à chaque fois que je mangeais trop ou trop gras, ou alors ils arrivent quand je suis dans un état de fatigue extrême. Donc, le mieux, c'est de se coucher tôt, de manger léger, d'éviter tous les films d'horreur avant d'aller au lit et d'éviter tout ce qui peut vous procurer des émotions fortes ou négatives, comme par exemple répondre aux emails ou faire ses impôts pour les retardataires ou encore faire son ménage. Voilà, voilà.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Alors, comme on est dans le thème du sommeil aujourd'hui, j'ai voulu m'attarder sur une expression idiomatique qui m'a toujours interpellée, c'est dormir sur ses deux oreilles. Ce qui veut dire dormir profondément, de manière sereine et tranquille, sans se soucier de rien. Et ça m'a toujours fait sourire parce que, on est d'accord, techniquement, c'est impossible de dormir sur ses deux oreilles, n'est-ce pas? À moins qu'on n'ait pas eu de chance à la naissance et puis qu'on a des oreilles vraiment très grandes et qui, du coup, quand on dort, se calent sous notre tête. Enfin bref. Alors, d'où vient cette expression? De ce que j'ai pu trouver comme info, cette expression, elle date du 19e siècle et ce serait initialement dormir sur les deux oreilles. Elle trouve son origine dans un dicton latin dont je ne vais pas vous faire l'offense de citer. Je vais plutôt me contenter de la traduire, ce qui donne dormir sur l'une ou l'autre oreille. Et donc, si on fait un raccourci, l'une ou l'autre oreille, ça équivaut à dire les deux oreilles. Et donc, ça prend son sens de dire dormir sur les deux oreilles. J'imagine qu'au fil du temps, on a voulu préciser à qui appartenaient les dites oreilles, au cas où on confondrait avec celles du voisin ou du chien. Tout ça pour dire l'expression « dormir sur ses deux oreilles », je pense très personnellement qu'elle aurait dû être suivie du mot « alternativement ».« Dormir sur ses deux oreilles, alternativement ». Voilà, voilà.
La question...
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Voici les titres du journal.
Des éducateurs sociaux en formation ont organisé mardi dernier une journée sportive placée sous le signe de l'inclusion à Aigle. Des élèves ont ainsi pu jouer à divers jeux avec d'autres enfants en situation de handicap. Une majorité populaire se décide en faveur des deux initiatives santé soumises à la votation le 9 juin, mais une division apparaît entre les régions. La Suisse romande est nettement favorable, alors que les alémaniques sont partagées, voire opposées. Le Tour du Pays de Vaud peut envisager son édition 2024 avec sérénité. Les problèmes de logement et financiers ont pu être résolus. Place au spectacle avec une étape au Longvillard.
Pour la météo, de belles éclaircies pour ce début d'après-midi avant le retour des nuages. Et pour ce week-end, il sera mitigé. On fait un point complet sur la météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Axel, bonjour à toutes et tous. Une journée sportive placée sous le signe de l'inclusion et de l'échange. Voilà le projet mené par des éducateurs sociaux en formation de l'École supérieure sociale intercantonale de Lausanne. Présent à Aigle mardi dernier, de nombreux élèves de différents établissements de la cité chablaisienne, dont des enfants en situation de handicap, ont ainsi pu se rencontrer et partager un moment particulier sous la forme de jeux sportifs. Alessandro, l'un des organisateurs, connaît bien cet univers. Il travaille à la fondation La Monresse à Aigle qui accompagne des enfants en situation de handicap et il avait déjà réalisé un événement comme celui-ci.
Moi j'avais monté il y a 6 ans en arrière des JO Interfondation dans les mêmes ordres d'idées et l'idée c'était de pouvoir faire renaître ça un peu. Puis pour moi c'est aussi une manière de boucler la boucle. J'ai commencé par ce projet là et je finis par ça. Je finis avec tous mes collègues à qui j'ai fait mes 2 ans et on est vraiment à cœur de faire quelque chose de bien. Et je crois qu'aujourd'hui, on est plus ou moins satisfaits de ce qui est en train de se passer.
Et on voit finalement que ça se passe très bien. Il y a une espèce de cohésion. On le voit, il y a quand même de la compétition.
Ah ouais, la compétition fait partie du sport. Donc on essaie de la réduire au maximum. Mais non, pour moi, ça se passe bien. Il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas d'engueulade. Il y a une bonne collaboration qui me surprend à des moments. Alors oui, il y a la compète. Et pour moi, ça reste bon enfant. Et ça reste quand même l'objectif de la journée.
Un sujet réalisé par Léa Journeau.
Comme disait Baudelaire, enivrez-vous.
Tel est le message de Swiss Wine Valais, la fêtière de promotion des vins et du canton à l'occasion de la sortie du millésime 2023, présentée hier à Montet. L'ivresse n'est pas l'excès, précise l'œnologue cantonale Nadine Pfenninger-Bridy. Elle souligne qu'il s'agit d'un millésime du vigneron, lié donc au travail du professionnel de la cèpe pour garantir des crus de qualité. Et si les étoiles du Valais ont été remportées principalement par des vignerons, les vigneronnes ont aussi leur place, selon Nadine Pfenninger-Bridy.
Je crois que c'est vraiment un métier qui se féminise beaucoup. Il y a passablement de femmes aujourd'hui dans le métier qui sont dans la lumière aussi. Alors c'est un petit peu le hasard des choses qui fait qu'aujourd'hui il y avait peut-être beaucoup d'hommes qui sont venus présenter les vins. Mais c'est un métier où la femme de plus en plus a sa place et une jolie place.
Des propos recueillis par Valérie Favre. Il sera possible de les déguster lors des caves ouvertes valaisannes du 9 au 11 mai. Une dizaine d'étudiants pro-palestiniens ont passé la nuit dans un bâtiment de l'université de Lausanne. L'occupation continue actuellement de se dérouler pacifiquement. Ces étudiants réclament notamment un boycott académique des institutions israéliennes ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat sur les territoires palestiniens. Ils se sont engagés à ne pas perturber les cours et les activités de recherche. De son côté, l'UNIL a promis de ne pas prendre de sanctions académiques. Il y aura du suspense le 9 juin prochain lors du deuxième dimanche de votation fédérale de l'année. En particulier autour de l'initiative qui veut plafonner à 10% du revenu les primes de l'assurance maladie. Le premier sondage effectué il y a un peu plus de 6 semaines du scrutin donne le oui gagnant à 56%. L'autre initiative qui entend mettre un frein au coût de la santé est elle aussi soutenue par une majorité de 52%, mais cela risque de ne pas suffire. Le résultat est par contre acquis pour les deux autres objets. Ce sera oui à la loi sur l'approvisionnement en électricité et non à l'initiative pour l'intégrité physique. L'analyse de notre correspondant parlementaire Serge Hubin.
Le soutien d'une majorité d'une UDC divisée à l'initiative des antivax et son rejet, tout aussi partagé, de la loi sur les énergies renouvelables n'auront aucun effet. Le oui au Mantelerlas électrique et le rejet de l'initiative pour l'intégrité physique, tous deux à 70% et plus dans le premier sondage GFS Berne, tous deux sont donc acquis. C'est autrement plus incertain pour les initiatives en lien avec les coûts de la santé et surtout celle du PS pour plafonner à 10% du revenu la charge des primes maladie. À 6 semaines du scrutin, avec un stade de formation de l'opinion avancé, c'est 56% de oui contre 40% de non et seulement 4% d'indécis. Avec un rejeté Graben, le oui dépasse les 70% en Suisse romande et au Tessin. Il est à 50% en Suisse alémanique. Les sondeurs haussent un demi-parallèle avec l'initiative pour la 13e rente AVS, mais ils se gardent bien de donner une tendance pour la votation du 9 juin. Le oui populaire pourrait se maintenir, mais le problème majeur serait alors la majorité des cantons. L'initiative du centre pour un frein au coût de la santé vire elle aussi en tête, mais avec très peu d'avance, 52% de oui, 41% de non et 7% d'indécis, avec une formation de l'opinion encore faiblement avancée. La perspective n'est pas positive, selon GFS Berne. Si elle suit le parcours habituel, l'initiative sera rejetée, ce d'autant que le oui n'est pas à 50% en Suisse alémanique. La majorité des cantons paraît inatteignable.
C'était l'analyse de Serge Hubin.
Soufflez dans le ballon, s'il vous plaît.
Ce qui se fait au contrôle routier pourrait se généraliser dans les hôpitaux, notamment en soins intensifs. Non pas pour mesurer l'alcoolémie, mais pour pouvoir suivre en temps réel l'état de santé des patients et contrôler le taux de certains médicaments. Avec le soutien du Fonds National Suisse, des scientifiques balois ont développé un sac spécial qui suffit pour prélever l'air expiré par des personnes hospitalisées et les analyser. Les pressions politiques sur la presse augmentent dans le monde, alors même que la moitié de la planète vote cette année. C'est l'alerte lancée par Reporters sans frontières dans son classement 2024 publié aujourd'hui. La Norvège reste en tête de ce 22e classement de la liberté de la presse, tandis que l'Érythrée arrive en dernière position, 108e, après la Corée du Nord les deux années précédentes. La Suisse s'en sort bien en occupant la 9e place. Il y a 175 ans, jour pour jour, naissait la pionnière allemande de l'automobile, Bertha Benz. C'était le 3 mai 1849. Grâce à son engagement, elle a créé les conditions nécessaires à l'invention de la voiture à moteur Benz qu'on doit à son époux, Karl Benz. Elle fut la première personne à effectuer un long trajet en voiture. C'était le 5 août 1888. Elle parcourut avec ses deux fils 106 km de Meinheim à Porfzheim à bord de la voiture à trois roues Benz. Elle est décédée le 5 mai 1944.
Eden Golan, jeune chanteuse israélienne de 20 ans, va représenter son pays pour la prochaine édition de l'Eurovision en Suède.
Les regards se tournent vers elle alors que les appels à exclure Israël de la compétition se multiplient. La présence à ce télécrochet européen fait polémique. Les organisateurs du concours n'avaient d'ailleurs pas validé sa première chanson « Pluie d'octobre », largement perçue comme une référence aux victimes de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, la trouvant trop chargée politiquement. Eden Golan représentera donc son pays avec une nouvelle version de la chanson intitulée « Ouragan ». On passe au sport. Le Blonay Basket aura certainement avantage ce week-end lors du Final Tour de la NLB féminine. Les Vaudoises disputeront les finales du championnat à domicile dans leur salle de Baïse. Elles seront opposées demain à Sion en demi après avoir éliminé